Chapitre 2. Le lendemain était la dernière journée que les Semenkov passaient à Vélaïna. Pas un instant, pendant ces 8 jours, le prince n'avait changé d'attitude à l'égard de la comtesse et de sa fille. Quant à la princesse Alexandrine, enchantée de n'avoir plus rien à ménager, puisque son petit-fils mettait ostensiblement à l'écart la jolie Mira, elle témoignait aux deux femmes la plus grande froideur. En bon courtisan, les hôtes de Vélaïna prenaient le même ton, les femmes surtout, ravies de voir ces étrangères très séduisantes dans une complète défaveur. Quant aux hommes, quelques-uns faisaient une cour assidue à Mlle Nadopoulos, mais elle y restait complètement indifférente, n'ayant dans l'esprit qu'une pensée, un tourment qui, chaque jour, devenait plus aigu. Cet après-midi-là, vers 5 heures, elle entra un peu en retard dans le grand salon au mur de porphyre, où tous étaient réunis pour le thé. Elle portait une robe de soie cerise et 2 gros nœuds de velours du même ton retenaient près des oreilles les bandeaux de ses cheveux noirs. Naguère, à Uxange, le prince lui avait fait compliment sur une toilette presque semblable, en ajoutant, avec son ironique et troublant sourire, qu'elle était une très jolie petite faunesse. Ainsi voulait-elle, encore, essayer de ramener à elle sa capricieuse attention. Assis au milieu d'un groupe de ses hôtes masculins, il s'entretenait avec le colonel Korff et le comte Sanxo. Yamil, qui en sa qualité de favori jouissait de grandes privautés, allongeait près de lui sur le tapis son corps souple et son long museau. À l'entrée de Nadopoulos, le chien se souleva en grondant. Vladimir le calma du geste et dit avec un accent froidement railleur « Yamil est comme les taureaux, il n'aime pas le rouge. Prenez garde, mademoiselle, si vous le rencontrez seul à seul. » La princesse de Wittengrass appuya de sa voix indolente « Ce serait terrible en effet, car j'ai remarqué qu'il regardait mademoiselle Nadopoulos avec une sorte d'hostilité. » Mira dit avec un sourire forcé « Je suis désolée de n'être pas dans ses bonnes grâces. Si je savais du moins ce qu'il faut faire pour essayer d'y parvenir. » Entre ses cils demi-baissés, elle glissait vers le prince un regard suppliant. Il riposta avec la même froideur sarcastique. « Oh, rien, absolument rien, mademoiselle. Yamil est comme son maître, il a des antipathies irréductibles. » Et, détournant la tête, Vladimir reprit avec ses interlocuteurs l'entretien interrompu. Un peu de sang monta aux joues mates de mademoiselle Nadopoulos. En se raidissant, elle se dirigea vers une autre partie du salon et s'assit au hasard parmi un groupe. Personne ne lui adressa la parole. Les femmes dirigeaient vers elle des coups d'œil de joie malveillante. Les hommes, pour faire leur cour au prince de Wittengrass, jugeaient bon de se tenir à l'écart d'une personne en si complète disgrâce. Quand, un peu plus tard, la comtesse et sa fille se retrouvèrent dans leur appartement, ce fut une explosion de rage. La belle Ismène, qui sortait rarement de son calme, trépignait presque aujourd'hui. « C'était bien la peine de nous faire cette invitation pour nous humilier ainsi !» « Ah, je m'en souviendrai de notre séjour à Vélaïna. Heureusement, nous partons demain. » Mira s'était jetée sur une chaise longue et enfouissait son visage dans les coussins. Au dernier mot de sa mère, elle se redressa brusquement. « Nous partons. Oui, hélas, j'aimerais encore mieux supporter des humiliations et continuer de le voir tous les jours comme ici. »« Mira, tu es folle. Après la façon dont il t'a traitée... » Qu'importe, je ne demande qu'à me faire son esclave pour tous les jours de mon existence. Il le sait bien, va, mais il dédaigne tout pour ce nouveau caprice et l'on croirait même qu'il me déteste. J'ai vu dans ses yeux. » Elle s'interrompit, passa la main sur son front brûlant. Sa mère se pencha pour lui caresser le visage. Tâche de l'oublier, ma petite belle, il faut. Jamais, jamais. L'oublier, le pourrait-on, même si on le voulait? Et je ne le veux pas. Mais ce qu'il me faut, c'est de savoir qui est l'autre, celle qu'il aime. Nous y parviendrons certainement, mon cher cœur. Ces choses-là se savent toujours, plus ou moins vite. » Mira s'était redressée légèrement sur la chaise longue. les sourcils froncés, le visage contracté, elle réfléchissait. La comtesse jeta les yeux sur une pendule et fit observer « Nous n'avons que le temps de nous habiller pour le dîner. »«
Je n'y assisterai pas. »«
Mira, cela ne se peut, précisément ce soir. On croira que c'est le dépit. »
« On croira ce qu'on voudra, je m'en soucie peu. »«
Mais enfin, pourquoi ? Tu as une idée, je vois cela dans tes yeux. »«
Oui, je veux profiter du moment où le prince est dans la salle à manger, où tous les domestiques sont occupés à leur service ou aux offices, pour tâcher de voir ce portrait dont m'a parlé la comtesse Sangzo. »«
Dans le cabinet de son Altesse, mais ce serait de la dernière imprudence. Vois donc, si tu étais surprise. »
« Non, pas à cette heure-là. »«
Et le chien, si le chien était là ?»«
Tu sais bien qu'il ne quitte pas son maître, qu'il est toujours couché à ses pieds. »
Ismène essaya encore plusieurs objections, mais elle se heurta à une résolution tendue et, de Guerlas, quitta la pièce en disant
« Fais comme tu voudras, puisque tu es assez folle pour entreprendre une chose pareille. »
L'appartement du prince de Wittenagrass occupait l'aile droite du palais. On y parvenait en longeant une galerie à colonnes de malachite, doucement éclairée par des lampes à globes rosés. Sur une antichambre en rotonde, dans laquelle se tenait durant la journée le cosaque de service, ouvraient trois portes. Quand Mira fut arrivée là sans encombre, elle s'arrêta un moment, indécise. Laquelle était celle du cabinet princier ? Elle se décida enfin à ouvrir au hasard celle du milieu. Sous l'empire de la surexcitation, elle ne réfléchissait même plus. La lune, ce soir, éclairait en plein la pièce magnifique, au seuil de laquelle s'arrêtait un instant Mademoiselle Nadopoulot. Mais celle-ci vit à peine les tapisseries anciennes tissées d'or et de soie qui couvraient les murs, les sièges venus authentiquement de Byzance à travers les siècles, les trésors artistiques sans prix que les ancêtres de Vladimir avaient transmis à leurs descendants. D'un mouvement impétueux, elle s'avançait vers une somptueuse table qui avait peut-être servi à quelque Basileus et saisissait un petit cadre d'or qui s'y trouvait posé. Enfin, elle l'avait sous les yeux, ce visage de femme haï à l'avance. Et tout ce qu'elle avait imaginé se trouvait dépassé par cette beauté ravissante, par ces yeux qui, à eux seuls, auraient suffi à faire remarquer une femme parmi cent autres. Le cadre trembla dans sa main. Il n'y avait plus à douter maintenant. Le prince aimait cette jeune fille, cette inconnue. Il l'aimait à tel point qu'il gardait son image sur ce bureau devant lequel il s'asseyait chaque jour. Elle semblait toute jeune, 16-17 ans peut-être. Elle avait l'air d'une enfant avec ses nattes pendantes. La tension haineuse de Mira notait la finesse aristocratique des mains charmantes, l'harmonieuse élégance de la taille sous une robe qui semblait très modeste, presque pauvre, le galbe délicat du cou et ce sourire des lèvres si bien dessiné. Mais les yeux surtout, les yeux, avec leur mystère de candeur et d'amour, quelle séduction ils devaient avoir dans leur vivante beauté, puisque déjà ils apparaissaient à Mira tellement charmeurs qu'elle se prenait à murmurer « Ah, je comprends, je comprends !» Elle restait là, blême, les traits crispés, sans pouvoir détourner son regard de cette figure. Autour d'elle flottait le parfum très léger qu'aimait le prince, mêlé à celui de ses cigarettes. Tous deux lui rappelaient Uxage, les espoirs fous dont elle avait commencé de se bercer, les fantasques amabilité dont elle était l'objet. Et maintenant, maintenant, qui donc pouvait-elle être, cette misérable petite fille qu'il avait prise à ce point ? Elle tourna le cadre, cherchant machinalement quelque chose qui pût lui fournir une indication. Mais rien, rien. Ce dessin, très remarquablement fait, devait être l'œuvre du prince. Comme il avait su rendre le charme de ce regard, la douceur amoureuse qui amenait sans doute sa présence. « Ce doit être à Stanitsa qu'il l'a connu, » songeait Mira. « Ce ne peut être que là, entre son séjour en France et son retour ici, car à Uxage, il avait certainement le cœur très libre.
je l'entends encore dire à M. de Tercieux, avec son sourire moqueur, « C'est idiot, l'amour, mais c'est bien amusant à voir, chez les autres. » Non, ce n'est pas à ce moment-là qu'il aurait mis un portrait de femme constamment devant ses yeux. Donc, c'est à Saint-Nizza qu'il s'est passé quelque chose. Elle reposa le cadre sur la table byzantine en résistant à la violente tentation de le jeter à travers la pièce, de le fouler aux pieds, de l'anéantir. Puis ses mains agiles ouvrirent un buvard, feuilletèrent quelques papiers posés là. Il ne fallait pas négliger une chance, quelque minime qu'elle fût, de découvrir un indice. Mais elle en fut pour son indiscrétion. Rien ici ne pouvait éclairer le mystère entourant cet inconnu. Mademoiselle Nadopoulos prit dans sa ceinture un petit mouchoir brodé qu'elle porta ses lèvres fiévreuses. Les dents fines y mordirent furieusement dans une crise de colère silencieuse. Puis Mira se jeta à genoux devant le fauteuil du prince et y appuya ses bras frémissants. La pâle clarté de la lune, qui éclairait le cabinet somptueux, s'étendait en nappe légère sur la robe rouge, les cheveux sombres, le visage frissonnant, où les yeux, tour à tour, brûlaient de haine et de passion. Oui, de ces deux sentiments, son âme violente débordait en ce moment. Avec une âpre fureur, elle s'imaginait le prince près de la jeune étrangère. Que devait-il être amoureux, celui qui déjà se faisait idolâtrer? Puis elle le revoyait tel qu'il était cet après-midi, quand il lui avait dit « Oh, ce ton et ce regard dur, ironique, méprisant !» Oui, elle y avait lu le plus profond mépris. Elle appuya son poing contre sa bouche pour étouffer le cri de rage qui allait s'en échapper. À ce moment, un bruit léger la fit sursauter, se redresser dans un mouvement de terreur. Avant qu'elle eût pu tenter de fuir par une autre issue, elle vit paraître au seuil de la pièce un homme de haute taille qui s'immobilisa en laissant échapper une exclamation. Mira reconnut aussitôt, pour l'avoir aperçu un jour à Uxage, Jorel, le premier valet de chambre du prince, un Français qui, d'abord au service du défunt prince de Wittenbrück, était passé à celui de son fils, auquel l'attachait le plus absolu dévouement. Instantanément, il dominait sa stupéfaction et s'avançait vers Mira, complètement en désarroi. Il interrogea d'un ton de froide politesse « Mademoiselle me permettra de lui demander ce qu'elle fait ici ?» Elle essayait de retrouver son aplomb en déroute. Se raidissant, redressant la tête, elle répondit « Mais j'attends son Altesse qui m'a fait savoir qu'elle avait à me parler. » Un léger rictus souleva la lèvre du valet de chambre. À cette heure, son Altesse dîne en ce moment comme mademoiselle le sait très bien et ensuite elle demeurera au salon pour toute la soirée. Je pense, au contraire, que mademoiselle a choisi cette heure-là, pensant être plus tranquille. Pourquoi faire, par exemple, voilà ce que je voudrais savoir. » Jorel avait des yeux intelligents et scrutateurs, une voix calme, un visage impassible. Mira vit aussitôt que cet homme ne se laisserait ni tromper, ni attendrir. Cependant, il ne fallait pas que le prince apparût. Ah, quelle folie elle avait commise! Quelle folie! Ses lèvres tremblantes balbutièrent. « Eh bien, oui, c'est vrai, je voulais voir quelque chose. Tenez, ce portrait !» Sa main s'étendait vers le dessin dont le cadre d'or luisait doucement dans la clarté lunaire. « Vous comprenez, cette jeune fille qu'il aime, eh bien, j'en suis jalouse. Je voulais la connaître, savoir si elle était très belle. » Jorel dit brièvement, avec un éclair d'ironie dans le regard, « Je ne crois pas que son Altesse trouve l'excuse suffisante pour justifier cette visite indiscrète. »« Mais vous ne le lui direz pas! Oh, je vous en supplie !» Elle joignit les mains en levant sur le valet de chambre des yeux implorants. De la même voix brève, sans qu'un muscle bougeât sur son visage, Jorel répondit « Je n'ai jamais rien caché à son Altesse et ce n'est pas aujourd'hui que je commencerai. » « Non, non, vous ne le direz pas. Que penserait-il de moi? Voyons, vous devez comprendre cela. Un moment de folie, de jalousie exaspérée. Vous vous tairez, n'est-ce pas? Je vous en prie, je vous en prie !» Affolée, elle lui saisissait le bras, le suppliait, s'abaissait devant ce serviteur. Mais Jorel, toujours impassible, recula légèrement en disant d'un ton glacial « Il fallait réfléchir avant, mademoiselle. Quant à moi, je ne connais que mon devoir et je l'accomplirai. » Elle sortit de la pièce, frissonnante d'angoisse, en se disant que, cette fois, tout était bien fini, que le prince, déjà si mal disposé pour elle, ne pardonnerait jamais cette audacieuse indiscrétion. Quand elle fut sortie, Jorel fit une rapide inspection de la pièce. Cette petite créature lui donnait l'impression d'appartenir à la jeune aventurière. Qui savait de quoi elle était capable? On disait le comte Semenkov ruiné. Or, le moindre des objets qui se trouvaient ici valait une fortune. Mais tout paraissait à sa place. Jorel, avec un soupir de soulagement, revint au bureau. Tout à coup, il se baissa pour ramasser un petit mouchoir tombé sur le tapis. Un sourire narquois entr'ouvrit sa bouche. Voilà pour son Altesse la preuve à conviction, songeait-il. Elle a dû mordre dedans, sans doute en un accès de rage. Si elle dit vrai, si elle est venue dans la seule intention de voir ce portrait, elle en a eu pour sa peine. La vue de cette beauté-là n'a pas dû lui guérir le cœur. Il se pencha et jeta un coup d'œil sur le dessin. C'est la jeune fille qui habite chez le vieux garde à Sanitsa. Je l'ai rencontrée deux fois. Parbleu, ce n'était pas seulement pour le plaisir de la chasse que le prince prolongeait son séjour là-bas. Et franchement, elle est assez belle pour qu'il en soit amoureux. Étonnamment amoureux, il faut le croire, puisqu'il ne peut se passer d'avoir son portrait sous les yeux. Car jusqu'alors, non, certainement, il n'a jamais été emballé pour personne, mon beau prince. Sur ce, le perspicace serviteur alla prendre sur une fenêtre une boîte d'argent niellée, puis, après un nouveau coup d'œil autour de lui, quitta la pièce. Quand, vers minuit, le prince regagna son appartement, il trouva dans le cabinet Jorel qui l'attendait. « Tu as quelque chose de particulier à me dire ?»« Oui, si votre Altesse le permet. » Vladimir s'assit près du bureau et se pencha pour prendre une cigarette. « Eh bien, parle !» Ayant oublié de porter la boîte de cigares chez le colonel Korff, ainsi que me l'avait recommandé votre Altesse, je suis entré ici vers 9 heures pour la prendre. Et qu'est-ce que je vois? Une jeune fille, si l'on peut appeler jeune fille, enfin, cette demoiselle Nadopoulos. Le prince eut un geste de surprise, un bref froncement de sourcils. Mademoiselle Nadopoulos, elle a osé? Que faisait-elle là? Elle a d'abord essayé de me dire que c'était votre Altesse qui l'avait fait demander. Mais, voyant que je n'en croyais rien, elle m'a enfin avoué la vérité, ce qui me semble l'être du moins. Elle venait voir ce portrait. D'un geste discret, le valet de chambre désignait le dessin encadré d'or. La contrariété s'accentua sur la physionomie de Vladimir. Après un court silence, il interrogea brièvement. « Ensuite, elle me supplia de n'en rien dire à votre Altesse. Naturellement, je lui déclarai que c'était impossible. » Elle partit furieuse en oubliant cela sur le tapis. De sa poche, Jorel sortait le petit mouchoir. Elle l'a même déchiré, avec ses dents, je pense. Donne. Pendant quelques secondes, Vladimir considéra le carré de batiste brodé et parfumé. Puis il le jeta sur le bureau en disant « Mets cela dans une enveloppe et fais-le porter demain chez elle. » Le valet de chambre s'éloigna. Resté seul, Vladimir alluma distraitement sa cigarette. Un pli de colère barrait son front et le dur éclat de ses yeux aurait fait trembler Mira si elle avait pu le voir. Quel infernal aplomb chez cette créature! S'introduire ainsi chez lui, comme une voleuse! Son beau-père, sans doute, lui avait parlé de ce portrait ou bien le comte Sansko. Le comte Semenkov avait peut-être mentionné la ressemblance de Lilia avec la princesse Levska. Aucune importance à cela, d'ailleurs, les Levska formant une très nombreuse famille et Ismène n'ayant certainement pas de doute sur la mort de sa belle-fille. Mais Vladimir était néanmoins contrarié que Mira eût vu ce portrait, car elle devait être jalouse, terriblement jalouse. Si par quelque hasard elle arrivait à savoir où se trouvait celle qu'il aimait, elle n'hésiterait pas à lui nuire de tout son pouvoir. Il resta un moment songeur, les sourcils toujours froncés. Puis un sourire méprisant entr'ouvrit ses lèvres. Quelle âme basse, sans dignité ! Rien n'existait plus pour elle devant la violence de sa passion. Comme, lorsqu'il la comparait à celle-ci, l'âme de Lilia lui paraissait plus ravissante encore. Mais non, cette comparaison même lui semblait un sacrilège. Lilia, toute pure, si délicatement fière, devant qui s'était inclinée avec un respect ému son orgueilleuse volonté, et l'autre, l'inquiétante faunesse à laquelle il se reprochait maintenant d'avoir accordé trop d'attention pendant son séjour à Uxage. Pourtant, il ne regrettait pas l'invitation faite en un moment de caprice pour la jolie grecque, car elle lui avait procuré le moyen de nouer avec le comte Semenkov des relations de bibliophile qu'il pourrait continuer à Pétersbourg sans éveiller de soupçons. Mais si André Pavlovitch lui inspirait un certain intérêt, comme étant le père de Lilia, il ne voyait en ces deux femmes que les pires ennemis de sa fiancée. Son antipathie à leur égard devenait plus violente encore depuis cette semaine qu'elle venait de passer sous son toit. Cette Ismène, élégante et jouisseuse, criminelle d'intention, comme il aurait volontiers jeté hors de chez lui, ou plutôt livré au croc de Yamil, châtiment trop doux encore pour une ennemie de sa Lilia bien-aimée. Jetant sa cigarette, Vladimir prit sur le bureau le cadre où souriait la figure si chère. Il la contempla longuement avec une joie qui faisait battre plus vite son cœur. Ainsi qu'il le disait à Lilia dans une de ses lettres, la séparation, bien loin d'affaiblir son amour, l'augmentait encore. Chez une nature ardente et absolue comme la sienne, un tel sentiment ayant renversé toutes les barrières de méfiance, de scepticisme, d'insouciance égoïste, devenait exclusif, dominait tout. « Oui, j'irai bientôt te voir, ma chérie, » murmura-t-il. « J'ai soif de ton sourire, de ton regard, de ta tendresse et de la confiance d'enfant qui ont fait de moi un homme que je ne reconnais plus moi-même. »